J'ai lu quelque part que des expériences avaient été faites sur des nouveau-nés. Leurs besoins alimentaires étaient satisfaits, mais on ne leur manifestait aucune affection. Eh bien, ils en sont morts parce qu'on les a privés du contact humain qui se fait beaucoup par le toucher et qui apparemment contribue à la vie. C'est aussi pour cette raison que l'imposition des mains, qui n'est pourtant qu'un symbole, revêt tant d'importance et marque les esprits. L'apôtre Paul a déjà dit à Timothée « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été conféré suite à une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. » C'est de cette manière que Timothée avait été confirmé dans son ministère. Ce rite exprime un partenariat, une solidarité entre ceux qui font ce geste et celui qui le reçoit. L'imposition des mains existait dans l'Ancien Testament, mais les apôtres l'utilisèrent pour ordonner certaines personnes dans l'œuvre de Dieu. Puis ce geste s'est étendu aux églises apostoliques et se pratique encore aujourd'hui. Je continue à lire dans le chapitre 5 de la première épître de Paul à Timothée. « N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. » Verset 22. À cette époque, lorsque quelqu'un manifestait le désir de servir le Seigneur, il était mis en examen. Il fallait en effet qu'il possède les qualifications requises conformément à la liste que Paul a donnée précédemment. Voilà pourquoi l'apôtre dit « N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un ». Si Timothée et les responsables de l'église d'Éphèse choisissent les anciens à la va-vite, ils risquent d'ordonner et d'installer quelqu'un qui a des squelettes dans son placard. Or, comme ils se seront identifiés à lui en imposant les mains, ils se rendront indirectement coupables du péché de cet homme. Il faut aussi que ceux qui sont nommés anciens connaissent relativement bien la parole de Dieu pour pouvoir diriger l'assemblée, enseigner et prêcher. Il existe en effet trop de jeunes croyants mal établis dans la foi qui occupent une position d'autorité dans l'Église. Ils font penser à un feu d'artifice, ils sont tout feu, tout flamme, ils manifestent beaucoup d'émotions, mais manquent de fondement dans les Écritures. Quelqu'un qui est jeune dans la foi n'a pas l'étoffe nécessaire pour assumer une responsabilité dans une assemblée. Il lui faut aussi de la maturité dans sa marche avec le Seigneur. L'assemblée d'Éphèse comptait beaucoup de nouveaux convertis, des néophytes qui avaient besoin d'un enseignement solide et suivi, avant de pouvoir prétendre servir l'Église en tant qu'ancien. Je continue le texte. « Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. » Verset 23. Cette recommandation est une note personnel et parallèle à Timothée, et ce n'est pas un encouragement à l'ascétisme. Dans les villes antiques, l'eau était souvent polluée et porteuse de maladies comme la dysenterie. Ce risque pouvait être réduit en buvant un peu d'alcool. Les bienfaits du vin en matière de santé sont consignés dans la tradition juive, dans les écrits d'Hippocrate, le père de la médecine, dans ceux de l'écrivain grec Plutarque, du naturaliste romain Pline l'Ancien et de bien d'autres auteurs. Je continue. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Verset 24. Paul revient à son sujet. Comment choisir les responsables d'église? Certaines personnes sont assez facilement disqualifiées parce que leurs fautes sautent aux yeux, pour ainsi dire, et ils n'ont évidemment pas les qualités requises pour servir d'exemple aux autres et les diriger. Si les péchés de certaines personnes se voient comme le nez au milieu de la figure, d'autres, au contraire, sont si bien cachés sous des faux-semblants qu'ils n'apparaissent que suite à une enquête minutieuse. Soit dit en passant, un croyant ne doit absolument pas rester indifférent à ses fautes. En effet, ailleurs, Paul écrit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Se juger soi-même signifie s'amender. En d'autres mots, si j'ai offensé quelqu'un, je dois aller lui demander pardon. Si j'ai volé un objet, il faut que je le restitue. Alors Dieu considérera l'affaire comme réglée. Mais si je persiste dans le péché, il sortira sa trique parce qu'il me traite comme son enfant, tandis que les non-croyants, eux, seront seulement jugés après la mort. Je finis le chapitre 5. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes, mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Verset 25. Parfois, le comportement habituel de certains hommes prouve sans l'ombre d'un doute qu'ils ont les qualités requises pour devenir anciens. Mais il y en a d'autres qui sont de nature discrète et qui, pourtant, mènent une vie droite, mais ils n'aiment pas la publicité, ce qui fait qu'on ne les remarque pas. Cependant, une fois découverts, ces personnes devraient mettre leurs dons au service de l'Église. Nous arrivons au sixième et dernier chapitre de cette première épître qui continue les recommandations pratiques de l'apôtre. La première concerne l'attitude des esclaves envers leur maître. Dans le Proche-Orient ancien, le travail des champs et les constructions étaient réalisés par des journaliers, des ouvriers qui étaient embauchés et payés à la journée, mais pas suffisamment pour vivre autrement que dans la misère noire. La plupart des esclaves étaient mieux lotis. Ils occupaient toutes sortes de fonctions, gérants, artisans, cuisiniers, enseignants, et ils faisaient pratiquement partie de la famille de leur maître. Leur statut était semblable à celui des serviteurs, les boys de l'époque coloniale. En Israël, l'esclavage était permis, mais rigoureusement réglementé. Les esclaves étaient souvent des prisonniers de guerre ou bien naissaient de parents esclaves. Mais les Juifs pouvaient aussi se vendre pour rembourser leurs dettes. Dans l'Empire romain, les esclaves étaient moins bien traités qu'en Israël, mais leur sort était quand même préférable à celui des journaliers. En effet, ils étaient nourris, logés et habillés, et certains recevaient même quelque argent de leur maître, et évidemment, ils jouissaient de la sécurité de l'emploi. Aucun auteur biblique ne s'élève contre l'esclavage. Si Jésus et les apôtres avaient demandé son abolition, ils auraient favorisé un chômage massif et le chaos social. De plus, la proclamation de la bonne nouvelle aurait été éclipsée par une réforme humaniste. Avec le temps, l'annonce de la personne du Christ fit son chemin et contribua à la fin de l'esclavage dans l'Empire romain et plus tard dans la couronne britannique et aussi en France. Je commence à lire le sixième chapitre. Les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Verset 1. Le grec « doulos », traduit par « esclave », a donné « douleur » en français. Pourtant, ce mot n'avait pas de connotation négative. Esclave veut simplement dire soumis à une autre personne. Ailleurs, Paul écrit que Jésus a pris la condition de doulos, esclave. Les croyants aussi, apôtres inclus, sont appelés esclaves de Dieu et du Seigneur. Le mot pour maître a donné despote en français. Cependant, il ne désignait pas forcément un tyran cruel, mais simplement quelqu'un qui possédait une autorité absolue. Jésus est d'ailleurs appelé « despote » à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Paul ordonne aux esclaves d'honorer leur maître. Dans notre société, le travail est souvent vu comme un mal nécessaire pour financer sa maison, son petit confort, ses vacances et toutes les choses dont on s'entoure. Mais le croyant doit être un employé modèle et s'il est payé pour 8 heures de travail, c'est ce qu'il doit fournir. Je continue le texte. « Que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères, bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. » Verset 2. Si le patron est un croyant, ça ne procure aucun privilège particulier aux employés, même si eux le sont aussi. Par contre, si dans une entreprise, tous sont frères et sœurs en Jésus-Christ, l'ambiance devrait être formidable. Une sorte de ciel sur la terre, car tous seront honnêtes, se respecteront et s'aimeront les uns les autres. Bon, d'accord, c'est théorique. Cependant, le christianisme pratique, selon l'enseignement des Écritures, doit se vivre partout, même sur son lieu de travail. Le statut social et économique d'un enfant de Dieu, qu'il soit maître, esclave, libre, patron ou employé, n'a aucune importance au regard de l'éternité, car tous ces rôles disparaîtront et seules les valeurs chrétiennes dureront. Je continue le texte. Si quelqu'un enseigne quelque chose de différent et est en désaccord avec les paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement qui conduit à la sainteté, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Versets 3 à 5. Les erreurs qui circulent sur la personne de Dieu sont monnaie courante, banales et stupides. Mais celles sur Jésus-Christ sont machiavéliques et mortelles parce qu'il est le Dieu sauveur. Tout ce qu'il concerne est renié par un système religieux ou un autre, et en particulier sa naissance miraculeuse d'une vierge, sa perfection, sa mort à la place des pécheurs, sa résurrection corporelle ou son futur retour en gloire. Les fausses doctrines sont également répandues sur le Saint-Esprit et l'autorité des Écritures. L'inspiration de l'Ancien Testament a été confirmée par Jésus et les apôtres qui furent à l'origine du Nouveau Testament. Cet ensemble, ancien-nouveau, constitue la parole de Dieu et son but est de sauver le pécheur et de l'élever à une vie sainte qui honore Dieu par Jésus-Christ. Les hérétiques, dans leur ensemble, sont des gens enflés d'orgueil. La racine de ce mot est « fumée ». Ce sont des ballons de baudruche. Ils sont bien décrits dans une fable de La Fontaine où il est question de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Envieuse, elle s'étend et s'enfle et se travaille, s'enfla si bien qu'elle creva. En effet, il faut être drôlement arrogant pour usurper le rôle de Dieu en se permettant de passer un jugement sur les Écritures et décider de son chef ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ceux qui enseignent des théories fumeuses contraires à la parole de Dieu sont des girouettes. Que ce soit dans le domaine spirituel, moral ou scientifique, ils changent avec les temps et les saisons, se contredisent et se disputent. Ces gens vivent dans un monde chaotique qu'ils ont eux-mêmes créé. L'homme est de nature un être ignoble. Et le croyant se reconnaît dans cet attribut. Il sait qu'il n'a pas la moindre raison de gonfler la poitrine car il n'est qu'un grand pécheur sauvé par pure grâce. Je continue le texte. Ils ne connaissent plus la vérité, les hérétiques, et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir, verset 5. Ignorant les réalités spirituelles, les faux apôtres ne s'intéressent forcément qu'aux valeurs de ce monde, avec en tête de liste s'enrichir. Je continue. Effectivement, la véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait s'en contenter, verset 6. Le mot pour contenter était utilisé par les philosophes stoïques et cyniques pour décrire quelqu'un qui est impassible face aux circonstances de la vie. Contrairement à ces intellectuels, la satisfaction du croyant est en Dieu. La personne la plus riche est celle qui n'a besoin de rien. Selon la petite histoire, quelqu'un aurait demandé au philosophe Épicure le secret du contentement et il aurait répondu « N'ajoute pas aux possessions, mais enlève aux désirs. » Tout le monde ou presque rêve de devenir le prochain Rockefeller. Pourtant, lui-même a dit « J'ai gagné beaucoup de millions, mais ils ne m'ont pas apporté le bonheur. » L'homme le plus pauvre que je connaisse est l'homme qui n'a rien d'autre que des millions. Je continue maintenant le texte. « Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. » Verset 7. Littéralement, le grec dit « Rien, en effet, avons-nous apporté dans ce monde, et de même, rien en emporter pouvons-nous. » Un homme richissime se mourrait. Finalement, le médecin et le notaire sortirent de la chambre. Aussitôt, les héritiers qui attendaient ont demandé « Combien a-t-il laissé ?» Réponse « Tout. Il n'a pas emporté le moindre sou avec lui. Les linceuls n'ont pas de poche. » Au début de son livre, Job, qui avait tout perdu, dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. » Je continue. « Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » Verset 8. « Les possessions matérielles demandent beaucoup de temps et d'énergie qui seraient mieux investis dans le travail pour Dieu. » Paul n'est pas contre les richesses ni pour le vœu de pauvreté. Mais comme Jésus, il condamne la mentalité qui consiste à ne vivre que pour soi. L'objectif suprême du croyant est d'aimer et de glorifier Dieu. Il doit prendre conscience que tout ce qu'il possède appartient à Dieu et qu'il en est seulement le gérant. Je continue. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Versets 9 et 10. Le mot pour précipite signifie submerger, tirer au fond. Celui pour perdition veut généralement dire la perte de son âme. L'amour de l'argent est un comportement suicidaire qui conduit à la destruction. La convoitise est un piège. Les Romains disaient « L'argent est comme de l'eau salée. Plus on en boit et plus on a soif. » Je continue le texte. « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance, l'amabilité. » Verset 11. « Homme de Dieu contraste avec les hérétiques qui sont des hommes de fric. » Timothée doit se garder de l'amour de l'argent comme de la peste et manifester droiture et attachement à Dieu, qui sont les deux attitudes fondamentales de l'homme de Dieu. Je continue. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Verset 12. Le mot pour combat a donné « agoniser » en français. Il était utilisé dans un contexte militaire ou sportif et décrit l'effort et la discipline nécessaires pour gagner. Saisir la vie éternelle signifie agir en ayant les valeurs éternelles en vue. Quand Timothée fut baptisé, il avait confessé sa foi en Jésus-Christ comme c'était la coutume dans les églises. Je continue. « Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi, observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu suscitera au moment fixé. » Versets 13 à 15. Le commandement est en fait l'ensemble de la révélation de Dieu, la somme des Écritures que Timothée doit enseigner. Paul lui demande de rester fidèle jusqu'à sa mort ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je continue. Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Versets 15 et 16. Paul commence et finit cette épître avec une doxologie, un hymne de louange au Seigneur. C'est le Dieu immortel qui est la source de toute vie. Il est le bienheureux ou le béni, c'est-à-dire qu'il ne lui manque jamais quoi que ce soit. Il est éternellement et parfaitement content et satisfait. Il est le seul souverain, un mot qui signifie puissance. Il habite une lumière inaccessible. Luther l'appelait Deus absconditus, le Dieu caché. S'il ne s'était pas révélé, nul ne pourrait le connaître. Je continue. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qu'ils placent leur espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes et d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Versets 17 à 19. Les riches ont la fâcheuse tendance à s'enorgueillir, à se croire supérieurs aux autres et à se confier dans leur richesse. Paul leur recommande d'utiliser leur argent pour la cause du Seigneur. Ils se constitueront ainsi un pécule dans la banque céleste. Je finis le chapitre 6 et 7 premières épîtres. Ô Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ce que l'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous. Versets 20 à 21. Timothée doit conserver précieusement la vérité dont il est le dépositaire et éviter de perdre son temps avec les pseudo-connaissances dont se vantaient les faux apôtres qui avaient abandonné la vraie foi. Dans la salutation finale, « Que la grâce soit avec vous », Paul s'adresse à toute l'Église d'Éphèse. La grâce de Dieu est une ressource inépuisable et indispensable à tous les croyants afin qu'ils restent fidèles à la vérité et la transmettent à un monde qui va à la perdition éternelle.